Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il va être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. L'homme de 23 ans, ancien petit ami de Chloé, passé aux aveux en garde à vue, suspecté d'avoir tué la collégienne de 14 ans, menacé de mort quelques semaines avant les faits, selon les amis de la jeune victime. Il témoigne ce matin sur RMC. Une broutille, le mot choisi par Donald Trump pour qualifier les échanges de tirs entre les États-Unis et l'Iran hier dans le détroit d'Ormuz. Pas de quoi menacer le cessez-le-feu, dit le président américain, et la chasse aux billets qui débute 22 jours avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal le 30 mai prochain à Budapest.
L'émotion toujours très vive ce matin à Ferrentard-de-Noix dans l'Aisne.
Là où Chloé, jeune collégienne de 14 ans, a été retrouvée morte mercredi matin, tuée de plusieurs coups de couteau portés par son ex-petit ami. Un homme de 23 ans vivant à Soissons au domicile de ses parents. Il va être présenté à un juge d'instruction. Aujourd'hui, le suspect a partiellement reconnu les faits en garde à vue. Il dit avoir porté les coups, mais rejette la volonté de tuer. Pourtant, selon ce témoignage RMC BFM TV, des amis de la jeune victime, l'homme s'était montré menaçant par le passé envers la collégienne. Pierre Bazin.
Oui, face aux enquêteurs, Camille et ses amis racontent cet appel téléphonique violent avec le jeune homme 10 jours avant la mort de Chloé. Un appel qui visait à apaiser la haine du suspect envers la victime, selon eux. Mais pendant plusieurs minutes, le jeune homme de 23 ans multiplie les menaces de mort à l'encontre du groupe.
On l'appelle et de là, il commence à nous insulter. Il dit « Ouais, moi j'ai un ami qui arrive de Paris avec des armes et tout ». Ah bah moi je dis c'est un fou ce gars, pour nous dire ouais venez là je vais vous éclater, enfin je vais vous tuer, je vais vous poignarder machin. J'ai les fous ce gars, enfin là à dire des trucs comme ça à des gens qu'il connaît pas, à une gamine, enfin je veux dire ouais non c'est... Ah c'est sûr et certain que c'est lui.
Cet appel Camille l'a enregistré et l'a donné aux gendarmes. Nous avons d'ailleurs pu l'écouter et constater la violence des propos tenus. Selon la témoin, le suspect avait également menacé de mort Chloé, la jeune victime, quelques semaines avant le drame.
Il était jaloux qu'elle se soit remise en couple avec quelqu'un. Il a voulu que pour elle et... Il voulait que Chloé soit que à lui. C'est prémédité, c'était pas possible autrement.
Depuis le décès de Chloé, Camille nous confie qu'elle ne peut s'empêcher de repenser à cette conversation glaçante.
Le cessez-le-feu fragile mais toujours en vigueur ce matin au Moyen-Orient. Donald Trump le confirme en dépit de l'attaque par l'Iran de 3 navires américains hier dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont répliqué, accusés par Téhéran d'avoir violé la trêve. Mais à en croire le président américain, cette reprise des hostilités ne signifie pas la reprise de la guerre.
Ils ont joué avec nous aujourd'hui, nous les avons balayés. Ils ont joué, j'appelle ça une broutille. Je vous le dirai quand il n'y aura plus de cessez-le-feu. Mais il fera mieux de signer l'accord rapidement. Les négociations se passent très bien, mais il faut qu'ils comprennent. S'il n'y a pas d'accord, ils vont beaucoup souffrir.
Et des mots qui semblent rassurer les marchés. Ce matin, le cours du pétrole continue de baisser très légèrement à 100 dollars. Il va falloir que ça dure pour voir un impact sur les prix à la pompe. Ici en France, à l'heure où Total Energy se retrouve dans le viseur, cette fois des distributeurs indépendants. Ils dénoncent un abus de position dominante du groupe pétrolier qui maintient le plafonnement sur les prix des carburants. Et ils ont saisi, Victor Joannin, l'autorité de la concurrence.
Depuis le début de l'opération plafonnement, il y a près de 2 mois, les stations-service indépendantes ont vu leurs clients fuir pour aller faire leur plein chez Total, car ces stations ne peuvent pas être compétitives. Et pour cause, Total produit et raffine du carburant qu'il fournit à un prix avantageux à ses propres stations, mais pas aux autres. La compagnie pétrolière en a le droit, sauf si l'autorité de la concurrence estime qu'elle est en position dominante. Total, c'est 1/3 des stations et 50% du raffinage en France, et que cette position dominante lui permet d'écraser la concurrence. L'enquête de l'autorité va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, elle sera confidentielle. Total risque une amende jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial. La compagnie qui ne souhaite pas réagir à cette attaque juridique.
Un risque de propagation limité, l'OMS se veut rassurante à propos du foyer d'antivirus apparu sur un bateau de croisière. Ce n'est ni le début d'une épidémie, ni celui d'une pandémie. 3 personnes ont été tuées à bord du navire désormais attendu aux Canaries. Dimanche, ces passagers seront débarqués en début de semaine prochaine. Parmi eux, 5 Français rapatriés dans la foulée. 8 autres Français n'ayant pas pris part à la croisière ont à ce jour été identifiés comme cas contact. L'un d'eux a été testé, les résultats d'analyse sont en cours. Si vous passez le bac cette année, pensez à réviser votre grammaire, votre syntaxe, votre orthographe, scruté de près par les examinateurs. À la demande du ministre de l'Éducation nationale, les élèves qui rendront des copies mal rédigées pourront ne pas avoir leur bac, dit Édouard Geffray, qui veut renforcer les règles de notation. Et toutes les matières sont concernées, Bérangère Bocquillon, même les mathématiques.
Oui, puisque l'orthographe n'était plus prioritaire dans les disciplines scientifiques, reconnaît le ministre de l'Éducation. Et même si les barèmes de notation du bac ne sont pas encore sortis, ces déclarations déplaisent à Pierre Prioré, professeur de mathématiques à Toulouse et élu SNES FSU.
On vient de réécrire les 11 programmes de mathématiques de la 6e à la terminale. Ça, c'est sûr que dans les programmes, il n'y a pas le mot orthographe. La correction de la langue ne fait pas partie des objectifs d'apprentissage en mathématiques. Ça reste une épreuve de mathématiques et ça doit rester une épreuve de mathématiques.
Mais d'autres enseignants attendaient cette décision depuis longtemps, comme Loïc Vatin, professeur de mathématiques en lycée et élu du syndicat SNALC.
Il était temps, d'ailleurs, j'y croyais plus du tout. Les consignes qu'on avait étaient d'une grande mensuétude concernant l'orthographe. C'est vraiment un changement de cap assez radical.
Et s'il salue cette décision, il espère pour les élèves qu'elle sera mise en place progressivement.
Quand je vois les copies que j'ai encore chez un très bon établissement, qui sont quand même truffées de fautes d'orthographe, il va falloir y aller doucement, parce que sans ça, il y a beaucoup de points qui peuvent partir.
Le ministre précise qu'il préfère avoir quelques bacheliers en moins plutôt que de fabriquer chez eux de la frustration sur la suite de leur parcours.
La fin du rêve européen pour Strasbourg, éliminé en demi-finale de Ligue Conférence, battu comme à l'aller 1-0 par le Rayo Vallecano qui affrontera les Anglais de Crystal Palace en finale. En Ligue Europa, Fribourg sera opposé aux Anglais d'Aston Villa. En Ligue des Champions, le PSG défiera les Anglais d'Arsenal. Le compte à rebours est lancé, la billetterie aussi, dès aujourd'hui pour les plus fidèles abonnés au Parc des Princes, première des trois phases de vente. Et le rêve pour de nombreux supporters parisiens, être à la Puskás Arena le 30 mai prochain à Budapest, coûte que coûte. Reportage Marion Gauthier.
Il fait de grands gestes, ouvre sa veste et montre fièrement son maillot aux couleurs du PSG. Aaron trépigne depuis la victoire en demi-finale.
Quand ça a sifflé, dans la tête ça a dit, on est obligé d'aller.
Combien vous êtes prêts à mettre ?
Des sommes. Il n'y a pas de prix pour Paris. Bon, je supporte Paris depuis que je suis petit, c'est mon club, c'est ma raison de vivre, madame. Je suis obligé d'y aller.
De l'émotion, encore. Un peu de fatigue aussi pour Valentin et Johan. Un sac de voyage à leurs pieds.
On revient de Munich en quart, donc avec les supporters. Ça part à l'organisation.
Oui, évidemment qu'on y pense tout de suite. Budapest, ça fait rêver. On y croit. On y sera.
On a réussi à trouver des billets d'avion aller-retour pour un budget très correct, une centaine d'euros.
Mais les prix ont déjà augmenté et François-Xavier envisage l'avion jusqu'à Vienne.
Et ensuite de louer une voiture de Vienne à Budapest, c'est 3 heures à peu près. C'est une belle destination de fête, je pense qu'on va se marrer. On va essayer de ne pas dépasser les 1000 euros au total. Quoi.
Tous espèrent réussir à trouver des places pour le stade.
Billets ou pas billets, logement ou pas logement, on trouvera moyen d'être le plus proche possible de nos joueurs. Je suis hyper excité, je suis un peu stressé. Les 3 prochaines semaines vont être hyper longues. À se refaire les matchs, les boucles WhatsApp vont chauffer pendant 3 semaines. Là.
Rêve d'histoire, dit-il, de voir une deuxième victoire de son club en Ligue des Champions.
Et pour les autres, le PSG réfléchit à une retransmission comme l'an dernier au Parc des Princes. Les Parisiens, qui pourraient être sacrés champions de France dès ce week-end, il faudra pour cela s'imposer dimanche soir face à Brest, à moins que Lens ne soit battu ce soir face à Nantes. Les Nantais menacés de relégation, 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, à vivre dès ce soir sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 8h08, on parle économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel, on parle sous.
Bonjour
ce matin,
tous.
Mais quand je dis sous, c'est vraiment sous, c'est-à-dire on parle argent liquide parce que les Français, à nouveau, plébiscitent le cash.
Oui, c'est vrai, depuis le début de la crise en Iran et donc de la crise énergétique, 12% des Français ont changé leurs habitudes de paiement, privilégiant l'espèce, notamment sur la carte bancaire. C'est ce que montre un sondage que publie Elab pour BFM TV. Ce comportement, alors on pouvait s'en douter, est plus répandu parmi les ménages les plus modestes. 17% de ceux qui peinent à boucler leur fin de mois ont davantage recours au cash. Mais attention, même des Français qui disent n'avoir aucune difficulté financière se mettent à préférer le liquide, 1 sur 10 environ.
Alors pourquoi ? Pourquoi ce regain d'intérêt pour les pièces, pour les billets ?
Alors la première explication, c'est que ça permet de faire des économies. Rappelez-vous, quand en 2022-2023 avait bien fonctionné la méthode des enveloppes, eh bien c'est...
Se dire, je pars avec un billet, je ne dépense pas plus que
le
billet. Quoi.
C'est le retour des enveloppes. Vous mettez un billet, une enveloppe, et c'est votre budget pour tel poste pour la semaine ou pour le mois. Ça permet de mieux contrôler ses dépenses. On a un tiers des Français qui utilisent ce système, surtout des jeunes. Et puis la guerre a créé aussi un climat de défiance. Alors pas tellement un climat de défiance vis-à-vis des banques, mais vis-à-vis des infrastructures, des réseaux de paiement qui pourraient être touchés, pourquoi pas, par des cyberattaques venues de pays qui sont un petit peu partie prenante du conflit. Et puis, faut pas se cacher la vérité, Apolline, les difficultés économiques dans un pays surfiscalisé poussent au travail au noir, avec des particuliers qui vont chercher des petits boulots pour mettre du beurre dans les épinards, et puis de l'autre, des particuliers qui sont bien contents qu'on leur rende des services qu'ils peuvent payer de la main à la main.
Et je rappelle quand même ces chiffres qui sont sortis hier sur la surfiscalisation. Hein. On a des recettes fiscales qui ont augmenté 3 fois plus vite que la croissance. Et on n'a jamais eu autant de Français qui ont payé d'impôts que l'an dernier. Donc oui, effectivement, c'est un peu une soupape de sécurité, de respiration financière.
Merci Emmanuel. Comme chaque jour sur RMC, les chiffres du jour, ça monte ou ça descend ?
Alors le gazole, vous savez qu'on a une petite baisse, mais qui est liée au retour pendant les ponts de la ristourne totale, qui a abaissé son plafond, mais on est quand même à 1,5 centime sur le gazole de plus qu'il y a une semaine. Le sans-plomb 95, 2,04 € le litre, ça continue à monter. On a un pétrole qui reste étrangement apathique ce matin, compte tenu de ce qui s'est passé cette nuit au Moyen-Orient avec ses frappes, 101 € le baril. Et puis le gaz qui est toujours stable depuis une semaine, autour de 45 € le mégawatt.
Merci Emmanuel.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et on part au 32-16. Benjamin, on part en Bourgogne, vous retrouvez puisque vous êtes dans Lyon. Bonjour Benjamin.
Bonjour Apolline.
Patron de bar, et ça vous a frappé ce matin, ces réactions des uns et des autres, des parents notamment qui disent que leurs enfants sont hyper enthousiastes à l'idée d'intégrer des classes dites défense, qui sont encadrées, entourées aussi par un certain nombre de militaires qui les sensibilisent aux différents métiers. Comment vous réagissez-vous Benjamin ?
Ah mais moi je suis très fier de notre jeunesse, hein, tout simplement.
Ouais, c'est ça, une fierté de la jeunesse. Vous en parlez, vous, dans le bar ?
Pas vraiment, parce que, voilà, mais c'est vrai que j'écoute souvent toutes les chroniques et je suis très fier de notre jeunesse.
Elle est là, la jeunesse. Alors vous, j'ose le dire, Benjamin, vous êtes un tout petit peu moins jeune aujourd'hui. Bon anniversaire !
Merci beaucoup, Mabou.
Bon anniversaire,
Benjamin. Vous avez quel âge aujourd'hui, on peut le dire ou pas ?
Oui, bien sûr, 52.
52, et vous allez faire quoi ? C'est sympa de s'offrir un jour férié, je trouve, pour son anniversaire.
Bah oui, mais je suis au boulot quand même. Hein.
Mais au boulot quand même, au boulot, le bar est ouvert, il est où le bar exactement ?
Je vous l'avais déjà dit, je vous avais invité à boire un café.
Je sais, je m'en souviens, mais on va partager un peu avec les auditeurs.
Je suis à Saint-Fargeau, dans Lyon.
À Saint-Fargeau dans Lyon, le bar il s'appelle
Le Bar du Commerce.
Le Bar du Commerce, c'est le jour ou jamais, franchement, de passer.
Venez souhaiter un bon anniversaire au patron.
Hein. Allez souhaiter un bon anniversaire au patron. Donc à Saint-Fargeau, on vous embrasse, Benjamin. Félicitations à vous. Très bel anniversaire. Il est 8h12. Et dans un instant. Le meilleur d'Arnaud de Manche. Et puis notez qu'à 8h30, mon invité, ce sera Didier François, le génial éditorialiste. J'ose le dire parce qu'il est vraiment formidable, Didier François. Il est souvent avec moi sur BFM et on a particulièrement besoin de ses lumières ce matin pour essayer de comprendre le décalage entre les mots et les actes. Parce que cette nuit, l'Iran dit avoir visé des intérêts militaires américains. 2 destroyers américains qui ont été touchés dans le détroit. Les Américains, eux, ont frappé l'une des îles iraniennes du détroit d'Ormuz. Et en même temps, Donald Trump nous dit que c'est une broutille. L'Iran dit que le cessez-le-feu continue. Alors, quel est le vrai du faux ? On fait le point à 8h30 ce matin avec Didier François. Il est 8h13.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 sur RMC. Arnaud Demange revient lundi. Vous inquiétez pas, il se repose. Mais il sera de retour très en forme lundi. On vous en a gardé le meilleur. Arnaud, tiens, ce matin, on voudrait que vous l'entendiez. Il revenait, souvenez-vous, sur la crise des carburants.
Vous me connaissez maintenant.
Oui.
Vous savez, je suis pas du genre bling bling, non, à me la péter, showbiz, pognon et tout. Hein. Enfin, samedi quand même, j'ai fait le plein de la Twingo.
Waouh,
les bifetons ont volé. À un moment, j'en avais pour 39,94 €. Comme tout le monde, je me suis dit, allez, je vais appuyer un tout petit peu pour arrondir. Schling, 87 € d'un coup.
Ça finit c'est par pour moi, c'est plus.
Ah ouais.
C'est ma tournée.
Allez, c'est ma tournée. Ça va finir par coûter plus cher que de prendre le TGV, hein, cette connerie.
Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, fait l'objet de rumeurs sur son état de santé. Il n'est toujours pas apparu publiquement.
Oui, il serait dans le coma. Quelle idée de nommer un demi-mort à la tête d'un État. Enfin, c'est comme si Emmanuel Macron nommait Balladur à Matignon. Pourquoi les Iraniens l'ont choisi ? Bon. Je pense qu'ils se sont dit, quitte à ce que les États-Unis nous dégomment le suivant, autant en prendre un qui a déjà un pied dans le trou, on y perdra moins. En plus, les valides, ils voulaient pas y aller. Hein.
Bien sûr.
Donc lui, il était dans le coma, il a pas pu dire non, les autres ont demandé, tu veux être guide suprême ? Ok, il est d'accord.
C'est
du morse. Ça me rappelle les plus beaux discours de Bouteflika. Les États-Unis offrent 10 millions de dollars pour des infos sur les dirigeants iraniens. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des photos des mollahs, mais avant les bombardements. Mmh. Donc forcément, vous vous souvenez, sur l'IA d'Elon Musk, il y avait une option Digrok, mais cette fille en maillot de bain, faudrait la remplacer par Digrok. À quoi ressemblerait ce dirigeant iranien s'il avait reçu un immeuble sur la tronche? Parce que là, on saurait, ce serait beaucoup plus simple.
À Paris. L'ancien appartement de Claude François est de nouveau à vendre.
Oui, alors là, j'ai un petit message perso. Ah. J'embrasse d'avance André, qui est une vraie auditrice à nous. Elle est vendéenne et elle m'écrit pour me gronder à chaque fois que je fais une vanne sur Claude François. Mm. C'est systématique. Hein. 10 minutes après, j'ai toujours un message. Alors, André, pardonne-moi et commence à rédiger ta lettre.
On y va,
car dans le 17e, l'appart de Clo-Clo est à vendre. 1,7 million pour 77 mètres carrés. Ah bah non, oui. L'électricité a été refaite quand même. Cette fois, c'est aux normes. Par contre, alors j'ai visité, il y a des trucs qui vont pas. Hein. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Donc, il faut régler. Il y a des travaux à faire. Moi, je sais que si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit. Les voisins, ils feraient la gueule. Alors, il y a une cave avec dedans trois vieilles qui font « Laissez-nous sortir !» Claude nous a enfermés en 76, on avait 14 ans, il voulait qu'on soit rien qu'à lui. On était là avec juste une ampoule pour la lumière. Un jour, on a entendu, l'ampoule s'est éteinte et depuis, plus de nouvelles.
Mais non.
J'espère qu'il va bien, il va bien. Non mais rassurez-moi. Non mais ce qu'il le disait, Clo-Clo, dans ses interviews. Les femmes, après 18 ans, j'aime moins, elles réfléchissent, c'est pénible. Il est mort trop tôt. Hein. Il est mort trop tôt, en 78, bien avant de pouvoir rencontrer Jeffrey Epstein et devenir son best friend forever. Ils auraient chanté des belles chansons. Elles sont toutes belles, 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 puis après elles ont des poils. Ça c'est l'auditrice, ça c'est André qui m'écrit. Hein. Elle me dit, on était très bien dans cette cave, arrêtez. Méchant avec Clo-Clo. J'arrête. C'est promis.
Vous faites un peu Clo-Clo avec la voix d'Alain Juppé.
Ah bon? Ah ouais. Oh, sont toutes belles. Oh, il y a un truc dans le nez. Il y a un truc dans le nez. Clo-Clo Juppé. À demain.
Le meilleur d'Arnaud Demange. Et il est 8h20. Comme promis, c'est l'heure de vous offrir vos vacances. Et celui qui a gagné le séjour Bel Embrun, c'est vous, Miguel. Bonjour, Miguel.
Allô?
Oui, Miguel, c'est vous, bravo.
Bonjour tout le monde. Bonjour, Apolline.
C'est Apolline.
Oui, je sais.
Eh bien, Miguel, félicitations.
Merci. Je n'en reviens pas encore, en fait, pour tout vous dire. Je suis un peu, ouais.
C'est super, vous êtes où? Vous faites quoi dans la vie?
Moi, je suis technico-commercial.
Ouais.
J'habite dans les Hauts-de-Seine, en Antony.
Ok.
Et puis voilà, ce matin, je suis venu un peu plus tôt. Je travaille pas, mais enfin, j'ai du boulot à la maison.
Okay.
En fait, je dois refaire toute ma cuisine.
Ah, donc vous bricoliez ce matin, vous êtes déjà allé à la radio, quoi.
La peinture.
Peinture, vous avez très 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 bien fait. Parce que vous allez avoir non seulement la cuisine, mais en plus les vacances.
Bah oui, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Ça fait des années et des années que je vous écoute, vous et puis toutes vos émissions. Bah, RMC depuis 2002. Ça fait très longtemps.
C'est bien, ça. C'est beau, ça, dis donc.
Donc j'y crois toujours pas.
Eh bah, ben si, moi je vous le dis, Miguel, c'est vous qui avez gagné. Et franchement, c'est un très très grand plaisir. D'abord, c'est génial de. Bah, ça nous fait toujours plaisir à nous, à Mathieu.
Il était là avant nous tous.
Ouais, vous étiez là avant nous, en fait. Hein.
Bien sûr.
Ouais.
Ah non, mais c'est toute la bande. C'est toutes les émissions que je dis, je suis très fan. Voilà.
En fait, vous nous avez vu grandir, quoi.
Oui, surtout vous, oui.
C'est sûr. Bon, à force d'être jeune, je suis plus si jeune. Hein, on le dit comme ça.
Oui, mais... plus que moi, c'est sûr.
Oui, mais ça fait grand plaisir. Écoutez, Miguel, en tout cas, félicitations, c'est un super plaisir. Alors, d'abord, bonne journée de bricolage. Et puis ensuite, bonnes vacances, on peut le dire déjà, Miguel. Parce que vous allez pouvoir choisir entre 45 destinations dans les plus beaux endroits de France, mer ou montagne avec Bel Embrun. Très belle journée, Miguel. Oui. Bon, mai alors.
Un petit mot pour votre collaborateur
ouais.
À côté de vous. Donc, en fait, moi, je suis très très fan du Real.
Ah.
Je suis un peu, mais je ne le dis pas très fort.
Ah.
Mais donc, allez Paris pour votre collaborateur. C'est qu'il adore ça.
C'est entendu.
On le murmure,
on le dira à personne.
On le dit à personne, mais il est bien content. On vous embrasse, Miguel. Salut et bonnes vacances. Il est 8h22. Dans un instant, le face à face.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bel Embrun. Bel Embrun Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Et mon invité dans un instant, c'est Didier François. Didier François, le spécialiste de la défense, parce qu'on a bien besoin de comprendre ce qu'il se joue. Ça se passe sur RMC et BFM TV, mais sur RMC Story. Vous restez avec Mathieu.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Didier François.
Bonjour.
Plaisir de prendre le temps avec vous ce matin parce qu'évidemment on vous connaît bien, éditorialiste défense de BFM TV. Et on a particulièrement besoin de vos lumières pour comprendre ce qui s'est joué cette nuit et pour comprendre aussi le décalage entre les mots et les faits.
Ça,
ce qu'il se joue sur le terrain et les paroles des uns et des autres, des destroyers américains touchés, des îles iraniennes visées, les Émirats arabes unis qui parallèlement activent leur défense aérienne et pourtant officiellement une broutille, nous dit Donald Trump. Commençons par les faits. Que s'est-il passé cette nuit ?
Alors cette nuit, en fait, à 22h20 en heure universelle, il y a eu une véritable bataille navale dans le détroit d'Ormuz. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, 110 minutes, c'est pratiquement 2 heures. Et en plus, côté, enfin voilà, c'est, il y a 3 navires de guerre américains, des frégates, et particulièrement des frégates antimissiles, qui ont décidé de re-rentrer à l'intérieur du golfe Persique, donc de traverser l'étroit d'Ormuz en venant de l'océan Indien. Et ils ont été pris très, très violemment à partie par les gardiens de la Révolution qui ont vraiment essayé d'utiliser tout ce qu'ils avaient pour les en empêcher.
Comment ? Quels moyens ?
Alors, les moyens qu'ils ont utilisés, vraiment, ils ont tiré toute la gamme. Du missile anti-navire. Donc ce sont des missiles qui rasent les flots et qui normalement se bloquent sur la cible et cherchent à toucher en général la salle des machines pour les exploser. Donc ça c'est du missile de type chinois C-802 pour les spécialistes. Enfin bon voilà. Ils ont utilisé des drones kamikazes pour essayer aussi de saturer la défense anti-aérienne rapprochée des navires, parce que les navires, ils ont de la défense lointaine. Les destroyers américains, sont des destroyers de la classe Harley Burke qui font de la défense antimissile. Donc, ils ont traité les missiles. Ils ont traité ensuite les drones kamikazes avec les armes de bord, et particulièrement avec un truc qui s'appelle le Phalanx. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les films, c'est une espèce de mitrailleuse rotative qui tire très, très, très vite un nombre très considérable de munitions. Et puis ensuite, il y avait des vedettes rapides qui sont arrivées en essaim pour essayer de, là aussi, de saturer les défenses immédiates et qui ont traité au canon de 127 et à la mitrailleuse lourde. C'est pour vous dire qu'on s'est rapproché extrêmement près puisque
ça veut dire que physiquement, la distance de combat entre les destroyers américains et...
C'est quelques centaines de mètres.
C'est une véritable bataille navale.
Il y a une, pour que ça dure 110 minutes, donc presque 2 heures, ils ont vraiment été harcelés. Et les Iraniens ont mis tout ce qu'ils avaient à disposition pour essayer de toucher ces 3 navires. Aucun n'a été endommagé. Tous les 3 sont passés. Ils ont détruit l'ensemble des moyens qui avaient été engagés contre eux. Et dans la foulée, comme évidemment ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient entourés d'une bulle de protection, de renseignement, de guerre électronique, avec des avions AWACS qui surveillaient, des ravitailleurs en vol, des chasseurs. Dans la foulée, le CENTCOM et donc certainement le président Trump ont décidé d'aller frapper l'origine de l'attaque, l'île de Kejp, qui est juste en face de Oman. Je sais pas si vous voyez le détroit d'Ormuz, cette espèce de...
Désormais, je pense que tout le monde a en tête ce coude.
Cette espèce de coude, on est vraiment à la, juste à la pointe de ce coude-là. Hein, c'est un endroit qui s'appelle Moussadam. Et ils ont été frappés au-dessus de la grande île de Kejp, que maintenant tout le monde connaît.
Qui est l'île longue.
Voilà. Le port de Bandar Abbas, qui est le port essentiel des gardiens de la révolution, et un autre endroit qui s'appelle Minab, et qui était le centre de commandement de cette opération, par les Pazaran. Là, donc ça a été détruit. Ils ont aussi détruit les lanceurs de missiles qui ont été repérés, certains assez loin, puisqu'il y en avait dans la région de Shiraz, donc à l'intérieur des terres iraniennes, mais ils les ont repérés pendant les tirs et ils ont été détruire les lanceurs.
Parce que effectivement, en quelque sorte, ils étaient sortis.
Ils ont sorti du bois, si je puis dire. Enfin, en tout cas, de leur planque. Et donc, ils ont été repérés et détruits. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on voit la volonté absolue des Iraniens de garder la main sur le détroit. Voilà, parce que quand même, ils ont, malgré le cessez-le-feu, essayé d'engager à nouveau, puisque les 2 des navires qui étaient dans la bataille d'hier étaient les 2 premiers navires qui, il y a 3 jours, vous rappelez, étaient passés, avaient pris déjà 16 missiles et les avaient arrêtés. Donc il y a quand même de la part des Iraniens une vraie volonté de garder le contrôle et même de s'attaquer à la marine américaine. La marine américaine a quand même montré un savoir-faire et un courage assez important, parce que rentrer dans ces eaux qui sont des
il faut oser.
Bah oui, parce qu'elles sont pas bien profondes, il n'y a pas beaucoup de place pour manœuvrer, faut vraiment être certain de ses capacités techniques.
Ce qui s'est passé cette nuit montre manifeste la supériorité, ceux qui en sortent gagnants de cette bataille,
alors, si militairement,
je puis me permettre, militairement, ce sont les
militairement,
Américains.
Sans aucun doute, ce sont les Américains, puisque pour la troisième fois, leur navire rentre et les Iraniens se montrent incapables de les arrêter. En revanche, l'objectif qui était au départ celui du projet Freedom, là,
de libérer débloquer le détroit d'Hormuz.
Je pense que néanmoins cette opération montre que autant les navires militaires américains sont capables de se défendre et que le dispositif militaire américain est assez robuste pour qu'il se permette de risquer des destroyers et donc des hommes dans le détroit, autant pour les armateurs et les équipages des navires commerciaux et civils, on le voit bien avec le tir sur le vraquier, le porte-container de CGA-CGM, là il y a un problème parce que les navires civils, eux, n'ont pas cette capacité de défense. Et vous voyez bien que dans une opération de cette nature-là, quand bien même il y aurait eu les destroyers américains qui auraient fait barrage, il y aurait eu des risques que les vedettes contournent et touchent les... Donc autant militairement, il n'y a aucun doute sur la supériorité, les capacités tactiques de la flotte américaine, autant pour mettre en confiance le trafic maritime commercial, là c'est un échec.
Didier François, on essaie de comprendre comment ça s'arrête ensuite. C'est-à-dire que ces 110 minutes, on comprend, on a l'impression effectivement que c'est une sorte de tir croisé, de feu non-stop, puis effectivement la riposte américaine sur l'île, et puis soudain les canons se taisent.
Alors déjà parce que les ennemis sont détruits. En général, à la guerre, ça peut aussi arriver. Et là, pour le coup, les passes d'Aran ont été mis en échec. Et donc, leurs moyens ont été... En tout cas, les moyens engagés par les passes d'Aran ont été détruits. Alors, il leur en reste certainement. Mais en tout cas, ils ont décidé que halte au feu, ça ne passait pas, il valait mieux s'arrêter là. Donc voilà, ça, d'un point de vue militaire. Après, la deuxième chose qu'il y a d'intéressant dans cette affaire, c'est que les réactions des Iraniens, puisqu'on a eu un communiqué dès hier soir des gardiens de la Révolution qui expliquent qu'ils ont mis en défaite l'ennemi, qu'ils les ont fait reculer, mais qui ne remettent pas en cause le cessez-le-feu. Et pareil, côté américain, où Trump explique que finalement tout ça s'est très bien passé, que c'était magnifique, que c'était formidable, que les armes américaines sont extraordinaires, avec tous les superlatifs habituels, mais lui aussi ne remet pas en cause le cessez-le-feu. Et pendant cet incident, les négociations continuaient sur le fameux mémorandum d'entente.
On va y venir sur ces négociations et sur la raison pour laquelle l'un comme l'autre, au fond, alors que les combats font rage, parlent toujours d'un cessez-le-feu. Mais est-ce que ça veut dire aussi que finalement l'Iran continue à avoir dans son panier des missiles, des drones kamikazes, des navettes rapides? Donc au fond, la capacité iranienne est encore très solide.
Elle existe, elle est réelle. Les estimations qui avaient été faites par les services de renseignement occidentaux, et enfin en tout cas en Europe, c'était qu'ils avaient certainement encore les moyens de tirer ce qu'ils tiraient avant le cessez-le-feu, donc il y a maintenant 3 semaines, environ 30 missiles balistiques par jour pendant 2 mois. Voilà. Là, on voit que sur les deux engagements qu'ils ont faits, à chaque fois, ils n'ont tiré qu'une quinzaine. Donc, ils ont encore du stock. C'est très difficile de savoir le stock qu'ils ont réellement parce qu'on connaît le stock de départ. On sait ce qu'ils ont tiré. En revanche, on ne sait pas ce qui a été détruit. La difficulté, c'est de trouver exactement ce qui a été détruit. On voit des rapports contradictoires entre le renseignement militaire américain et la CIA. Voilà. Il y a des discussions entre spécialistes. Honnêtement, on voit des tas de trucs dans la presse. Les spécialistes entre eux-mêmes hésitent et font à leurs autorités des rapports extrêmement prudents. En revanche, sur les drones, là pour le coup, on ne sait pas, parce que le drone, ça se produit pas sur des usines lourdes, ça peut se produire dans des ateliers, etc.
De manière plus rapide et moins chère.
Voilà. Donc là, honnêtement, personne n'a de visibilité sur les capacités drones réelles, qui sont sûrement existantes et sûrement nombreuses, parce que c'est une spécialité des Iraniens.
Il y a eu cette bataille, donc cette véritable bataille, 110 minutes, vous le dites, de feu croisé cette nuit. Et puis, il y a les Émirats Arabes Unis qui, parallèlement, disent avoir activé leur défense aérienne. À quoi est-ce que cela correspond? Qu'est-ce qu'il s'est passé là? Ou qu'est-ce qu'ils ont anticipé qu'il puisse se passer?
Alors en fait, on est exactement dans la même phase qui a commencé il y a 3 jours avec le fameux projet de Freedom, Liberté, donc qui était d'essayer d'ouvrir la route de circulation maritime sud d'Hormuz, pas celle qui passe près de l'Iran, mais celle qui passe près de Oman et de l'Arabie Saoudite. Donc on voit qu'il y a eu 2 choses. Une attaque militaire contre les moyens militaires américains, ça on vient d'en parler, et il y a eu parallèlement des attaques de missiles contre les Émirats arabes unis. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient taper sur le port pétrolier qui est hors du détroit d'Ormuz pour empêcher les Émirats arabes unis d'exporter par, justement son pétrole sans passer par Ormuz et mettre pression sur les Émirats arabes unis. On sait qu'il y a deux jours, les Émirats arabes unis ont eux-mêmes fait une frappe de riposte exactement au même endroit que ceux qu'ont pris les Américains hier soir, entre autres avec des Mirage 2000-9. Ils ne l'ont pas rendu public parce que les Iraniens, parce que les Iraniens de leur côté aussi,
ont d'ailleurs nié.
On niait, exactement.
Ont tiré, donc, mais on dit non.
C'est la réponse du berger.
On ne les vise pas.
Absolument. Réponse du berger à la bergère. Je tiens, tu me tiens pas la barbichette. On est dans quelque chose, faut bien comprendre. Ce qu'il y a des, ça paraît totalement contradictoire parce qu'on parle d'un côté de négociation et de l'autre côté, on voit que ça tape dans tous les sens. En fait, c'est normal, presque. Enfin, je veux dire, c'est idiot à dire, mais c'est presque normal. Parce que pendant les négociations, chacun veut mettre en avant ses forces. La force des Iraniens dans les négociations, c'est le bloqué Hormuz. Et donc, ils veulent
donc montrer... on ne négocie bien qu'un pistolet sur la tempe.
Et exactement. C'est John Woo. C'est, vous savez, quand les gars avec des se tournent autour avec des pistolets, c'est exactement ça. Donc, les Iraniens veulent rentrer dans ces négociations. Eux, ils veulent obtenir une chose, c'est le déblocage de leur argent gelé et de leurs avoirs gelés depuis maintenant beaucoup d'années, mais surtout depuis 2018. Il y a une centaine de milliards. C'est très important pour eux et c'est au centre de leur demande. Les Américains, de leur côté, veulent le nucléaire. Ça, c'est très important. Et les pays de la région veulent les missiles balistiques et le soutien aux organisations terroristes. Donc, en fait, on est en train de...
Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que ça disparaisse.
C'est ça.
Ils souhaitent que dans les négociations, il y ait la destruction de la capacité nucléaire et la destruction des organisations terroristes.
La discussion, voilà, pour les pays de la région, c'est les missiles balistiques et la destruction des trucs.
Et de ce point de vue-là, il y a un intérêt à peu près commun entre les pays du Golfe et Israël.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est les discussions en cours, c'est la préparation des négociations. Ce sont pas
nous
encore
ne sommes
les négociations.
Pas encore dans les négociations. Voilà. Nous sommes dans les pré-négociations.
Voilà, c'est ce qui, voilà, ils sont en train de négocier ce qu'on appelle un mémorandum d'entente. C'est-à-dire, ils se mettent d'accord sur de quoi on va parler. Les Américains veulent absolument parler du nucléaire. Ce que, au départ, ne voulait pas, de l'enrichissement et du stock d'uranium enrichi. Ce que, au départ, les Iraniens ne voulaient pas discuter. Les Iraniens voulaient absolument discuter de leur argent et est-ce que les Américains ne voulaient pas leur laisser, ils voulaient pas lever les sanctions tant que le reste était. Donc,
ce sont ces deux points-là sur lesquels véritablement on sent que c'est la clé.
C'est la clé. L'argent, ça a toujours été la clé pour les Iraniens, indépendamment de l'idéologie. On a eu le même problème qu'on avait le Eurodif.
C'est aussi un petit peu la clé pour les Américains, non ?
Alors, ça va l'être aussi, bien sûr. Mais pour eux, le nucléaire est quand même très très important. La menace nucléaire est réelle et par rapport à leurs alliés. Et la troisième chose qui reste, les missiles. Et le soutien au groupe terroriste sera reporté à des discussions régionales entre les pays de la région et l'Iran après les discussions américano-iraniennes.
On va revenir aussi sur la question du rôle de la France avec le Charles de Gaulle. Absolument. qui est en route vers cela. Mais un mot, puisque vous parliez des renseignements et de leur grande prudence, à savoir quelles sont les capacités ou non de l'Iran. Il y a ce renseignement américain cité par l'agence Reuters qui croit savoir que l'Iran n'est qu'en réalité qu'à 12 mois de la bombe atomique. Est-ce que ça, c'est crédible ?
9 à 12 mois, c'est l'estimation générale si les Iraniens arrivent à militariser. Donc c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué. Mais oui, à la louche, le problème d'abord.
En tout cas, ils ne sont pas dans l'impossibilité.
Il faudrait qu'ils aient l'accès à leur stock. Il faut qu'ils puissent passer à 90% depuis 60. Ça, c'est pas le plus difficile. Mais enfin bon, pas sous le feu, c'est compliqué. Mais ce qu'il y a d'inquiétant dans l'affaire, c'est que on s'est rendu compte que pendant les bombardements, ils avaient des équipes de scientifiques qui cherchaient la militarisation, puisque lors d'une frappe israélienne qui avait été faite en suivant un scientifique par hasard, ils ont frappé un endroit où ils ont rendu compte qu'il y avait 20 scientifiques qui étaient en train de travailler sur la militarisation de la bombe. Ça veut pas dire qu'elle l'ait réalisée aujourd'hui. Il y a encore des tas de choses à faire, le détonateur, etc. Mais la volonté, en tout cas, elle est là. Et les stocks d'enrichissement d'uranium, 440 kilos, potentiellement, c'est 11 bombes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette question du nucléaire qui est portée. C'est pas immédiat comme menace, mais potentiellement, c'en est une réelle.
Didier François, Hormuz, bloqué ou pas bloqué, en vrai?
De fait, bloqué.
Toujours bloqué.
Oui, en fait, ça coule à filet d'eau très. Enfin, là, je pense que sur les prochains jours, les armateurs vont faire
très
attention.
Après la bataille de cette nuit, évidemment, la prudence sera de mise avec donc notre porte-avions.
Oui.
Qui a pris la route, qui a traversé le canal de Suez, qui est, j'imagine, quelque part dans la mer Rouge au moment où on se parle.
À la louche, hein, le porte-avions, il fait 700 km par jour, pousse potentiellement 15-20 nœuds. Oui, lui et son groupe aéronaval, il faut à peu près 3 jours pour arriver sur la zone. Après, ça dépend de la mer, ça dépend de plein de trucs, mais il sera entre Djibouti et le Yémen, donc sur le détroit de Bab-el-Mandeb dans les jours qui viennent.
L'endroit un peu crucial.
C'est crucial parce que c'est ce qu'on appelle, en termes militaires, la poignée de l'éventail. Ça leur permet à la fois de pouvoir ravitailler s'il y a besoin à Djibouti, de pouvoir rester en veille et en sécurité sur Bab el-Mandeb, qui pour nous est un détroit important puisque le commerce avec l'Asie pour l'Europe passe par là, et d'être à 48 heures de la possibilité de se porter sur Hormuz si la situation diplomatique évolue et si l'idée qu'on avait, qui est d'essayer de créer une coalition internationale dans le cadre du droit sur la liberté de circulation, après la réunion du 17 avril à Paris avec une cinquantaine de pays, allait se concrétiser. L'idée,
c'est bien à cela, parce que Alice Ruffo, la ministre déléguée aux armées, hier matin, disait que nous en avons pris le leadership avec les Britanniques, semble-t-il, mais les Britanniques n'ont pas la manifestation
pas
physique,
qui...
ce qui est quand même, j'avoue, depuis le début de cette guerre, c'est aussi un des points qui est très surprenant, c'est-à-dire que la marine britannique n'est pas au rendez-vous.
Non, mais c'est un drame.
N'est pas au rendez-vous.
C'est un drame. La marine britannique, c'était quand même... Enfin, l'armée britannique, il faut bien savoir qu'en Europe, avec la France, c'était une des seules armées qui vraiment tenait la mer avec des capacités de combat, une expérience, une tradition, une culture. Honnêtement, le fait que l'armée britannique aille mal est une très mauvaise nouvelle pour les Européens. Et une très mauvaise nouvelle pour la France. C'est des problèmes de budget. Ils ont été encore plus loin dans les coupes que ce que nous avons fait, dans la privatisation d'un certain nombre de moyens. C'est une catastrophe. Faut vraiment pas faire ça.
Est-ce que, véritablement, nous avons pris le lead? Et pourquoi faire ?
Alors oui, on a pris le lead parce qu'on est les seuls, effectivement. On l'a vu depuis début mars. Hein. La première phase, rappelez-vous, on a quand même rappelé le porte-avions et l'ensemble de notre flotte pour aller protéger l'Union européenne face à Chypre. Deuxième phase, on est capable aujourd'hui, grâce à ce porte-avions qui est quand même une puissance incroyable. Hein, on a la capacité de faire du renseignement. On a une vingtaine de rafales qui sont capables de faire absolument toutes les tâches. De ce point de vue-là, au même titre, alors moins que les Américains en termes de nombre, mais en capacité, ça permet d'être autonome en appréciation de situation, en renseignement, en coordination, en commandement, et donc de pouvoir mettre autour de nous un certain nombre de pays qui voudraient participer avec du déminage, avec de la négociation, avec de la logistique, avec des frégates de défense.
À fluidifier le jour venu,
parce qu'on en a besoin vu ce que ça nous pèse. Enfin, parce que pour tous les gens qui disent qu'est-ce qu'on va foutre là-bas, enfin, il suffit de voir le prix de l'essence pour comprendre que ça nous touche quand même.
Et justement, un mot pour le dire, vous l'avez vu évidemment à notre boutonnière, vous comme moi, nous portons ces fameux bleuets, c'est une tradition, c'est un hommage aux soldats blessés, aux familles endeuillées, aux pupilles de la nation, aux victimes d'actes terroristes. 8 mai aujourd'hui, la mémoire au fond est particulièrement ravivée par le contexte actuel.
Mais c'est important, en fait. Vous voyez bien que, en fait, on se croyait dans un monde sans guerre pendant 70 ans et on a eu cette chance. Alors, nous, en Europe occidentale, la guerre, elle existait ailleurs. Moi, ça fait 40 ans que je couvre les guerres. Aujourd'hui, je pense que c'est important, le devoir de mémoire, de se rappeler, enfin, la guerre, on la veut pas toujours. Regardez nos grands-parents, ils ne la voulaient pas. En 38, on a essayé d'apaiser un dictateur qui nous a imposé la guerre et qui a envahi la France une année plus tard. La guerre, c'est pas parce qu'on ne la veut pas qu'on ne l'a pas, donc il vaut mieux savoir d'où on vient pour pouvoir savoir où on va.
Merci Didier François, éditorialiste défense à BFM TV, un honneur. Il est 8h47.
Merci.
Ne bougez pas sur RMC dans un instant, la semaine face à Canteloup. Nicolas Canteloup qui revient notamment sur l'annonce de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2027.
RMC, une semaine face à Canteloup.
Cette semaine, Olivier Faure, le patron du PS, était l'invité du face-à-face et il est resté face à Canteloup. Rebonjour Olivier Faure.
Rebonjour.
Figurez-vous que François Hollande voulait réagir. Bonjour, monsieur l'ancien président.
Oui, bonjour. Pardon de vous reprendre ma l'air, mais je pense que j'ai fait une petite erreur. Dans votre lancement, vous pouvez présenter en disant François Hollande. Et il faut bien préciser, il fallait dire le président Hollande.
Ah, le président Hollande. Oui, bonjour président.
C'est quand même pas compliqué, il faut être carré. Hein.
Ah oui.
En plus, j'ai la chance qu'il y a encore un peu rond, donc faites rentrer le rond dans le carré.
C'est ça.
Voilà. Bref, il faut dire président Hollande. Oui, j'aime à rappeler que j'ai occupé les plus hautes fonctions, contrairement à d'autres autour de cette table.
Oui, monsieur
le président.
Ben oui, président, ben oui, il n'y en a pas beaucoup des présidents, ça se compte sur les doigts d'un pouce. Hein, voilà. Pour donner une image, en cette journée de football, il y a, je voulais, la Ligue des Champions avec Luis Enrique, et puis il y a le tout venant, la Ligue amateur avec Habib Bey en Ligue amateur. Chacun se reconnaîtra, voilà, pour cette table. Et j'écoutais attentivement Olivier Faure.
Oui.
Pour qui j'ai beaucoup de compassion.
De compassion.
Oui. Se faire enfariner, c'est toujours une épreuve. Et on se doute qui est derrière cet attentat pâtissier. Puisque d'après les premiers éléments de l'enquête, on a retrouvé sur le corps de la victime de la farine francinée insoumise.
Attention, monsieur Hollande, vous avez aussi reçu la farine, justement. D'ailleurs, vous en avez encore un peu sur votre veste, là.
Où ça?
Non, c'est pas
de la farine, c'est du sucre glace.
Ah oui.
Oui, c'est à cause de la gaufre à l'heure. Oui. Oui.
Ou des chouquettes.
Ah oui. C'était des chouquettes. Voilà. À moins que ce soit le pain au lait aussi.
Ah, oui.
Quand même, ce serait quand même pas le Queen Amman. Ah non, je sais, c'est moi. Non, c'est le beignet. Bon, mais bref, c'est pas le sujet. Non. Je voulais répondre à Olivier Faure concernant la primaire à laquelle il ne tient pas. Il y a un argument qui est imparable contre la primaire. Parce que j'ai un trou de.
Ah oui, ça va.
Ça va revenir.
Puis pour faire un point sur la situation dans le détroit d'Ormuz, le consultant militaire de BFM, le général Pellistrandi, est avec nous, général. Général ? Il est où ? Général ? Il sort dessous la table. Général, vous êtes avec votre casque.
Mirabelle, appelez Glantine. Mirabelle, appelez Glantine. Mirabelle, appelez Glantine.
Général Pellistrandi ?
Non, mais oui, c'est pas Glantine, c'est Pauline.
Non,
c'est
oui.
Pauline. Alors, j'essaie de retrouver mes hommes de la 7e compagnie. Tassin, Pithiviers et Twitek.
Ah oui.
Et on a aussi intégré une fille, parce qu'à BFM, on est une armée moderne. On a Elsa Vidal.
Ah oui.
Je suis amoureux d'Elsa Vidal, la fille aux cheveux gris. Les cheveux gris, parce que c'est un super camouflage, les cheveux gris, parce que la nuit, tous les chats sont gris. Oui, parce que moi, je suis resté très proche du terrain, hein, même si le terrain, il y a longtemps qu'il ne m'a pas vu.
Hein,
voilà. Oui, moi, la dernière guerre que j'ai faite, c'était le Tchad en 78.
Ah oui.
Hein, oui. Mais maintenant, ça a évolué, la guerre. Maintenant, c'est Tchad GPT. Il
parle,
je ne sais pas où c'est sur la carte, mais Tchad GPT.
Oui. On est à l'antenne générale.
Oui, pardon. Oui. Ah non, c'est moi le général. Pardon.
Oui, c'est vous. Alors, général. Bon, c'est peut-être la fatigue. On a vu que vous travaillez beaucoup quand même.
Oui, c'est le problème. Je travaille beaucoup. C'est le problème, c'est que c'est une chaîne info en continu.
C'est
tous les jours, c'est 9 jours sur 7. J'ai même pas pu faire le pont du 1er mai. Je sais pas qui est le con qui a fait sauter le pont. Hein, pourtant, j'avais bien dit le fil rouge sur le bouton vert, le fil vert sur le bouton gris. Mais
vous vous faites jamais remplacer, général ?
Non, parce que vous savez ce qui se dit à la rédaction. Je suis remplaçable. Oui, alors ils essayent de faire tourner les effectifs des généraux, hein, mais les autres, ils sont pas au niveau. Moi, du coup, on se relaye à tour de rôle, mais c'est quand même très souvent chacun mon tour. Hein, voilà. Il fait quand même un peu chaud dans votre studio.
Oui.
Je sais que c'est pas réglementaire, mais sur un théâtre d'opération, parce que c'est riqué, mais je peux m'enlever mon cax.
Oui,
mon
vous cax. Pouvez vous enlever
vos cax. Il faut l'image.
Voilà. Regardez sur les réseaux sociaux, je vous en prie.
Oui, c'est pour les réseaux sociaux. Alors,
oui. Allez-y, général, je vous écoute.
Oui, je me sens plus léger, vous voyez, plus à l'aise pour parler de la guerre des bateaux. Parce que ma force, c'est que je suis expert nulle part, mais je suis à l'aise partout.
Ah oui.
Et oui, si les gens s'en rendent compte, hein, en mer, je flotte, dans les airs, je survole, et sur terre, je m'enlise. Hein. Bon, allez, je vous laisse, à vos ordres, mon général.
Non, c'est vous le.
Oui, c'est moi, du général. J'oublie toujours.
Les chiffres de Médiamétrie sont tombés, CNews a dégringolé à la 3e place des chaînes info en avril. Et pourtant, Christine Kelly est tout ce qu'il faut pour retenir les derniers téléspectateurs.
Bonjour. Bienvenue sur CNews, dans mon havre de paix, le spa Christine Kelly. La concurrence vous inonde d'informations anxiogènes sur le Moyen-Orient. Alors, pour lutter contre tous ces antioxydants qui vous agressent, essayez notre formule zen. Un bain de boue vivifiant dans lequel on traîne quotidiennement Bali Bagayoko. Bien sûr, avec respect, calme et volupté.
Bien sûr.
sûr. Découvrez également notre gamme de soins adaptés pour toutes les peaux à problème. Vous ne supportez plus le teint mat de Kabylie ou l'épiderme noir comme du charbon végétal? Laissez-vous séduire par les traitements que nous proposons à base de vitamines OQTF à l'extrait de remigration active. Alors je vous dis à bientôt. Je vous attends dans mon spa, Christine Kelly.
Merci beaucoup, Christine Kelly. Et nous sommes à présent avec. Ah, tiens, oui, vous êtes de retour, monsieur Hollande.
Ça m'est revenu.
Ah bon? Alors, l'argument imparable contre la primaire?
Non, non, le sucre glace. Ah sur la glace. En fait, c'était pas le beignet, c'était les choux rouges.
Ah, c'était les choux rouges.